Zone d'ombre avec Wallis Claes.
Nous allons vous parler aujourd'hui de la pire tragédie de l'histoire d'Air France. Le 1er juin 2009, un Airbus A330 effectuant le vol AF447 entre Rio de Janeiro et Paris décroche brutalement et s'écrase dans l'océan après une chute vertigineuse de 10 000 mètres. L'avion d'Air France transportait 228 passagers, dont 12 membres d'équipage. Il n'y aura aucun survivant. Que s'est-il passé ce jour-là? Bienvenue dans votre émission Zone d'ombre sur Radio Orient avec Wallis Claes. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, le vol AF447 disparaît entre Rio de Janeiro et Paris. À bord de l'Airbus A330 tombé en mer, 216 passagers et 12 membres d'équipage périssent. Quelques heures après son décollage, l'appareil disparaît en plein Atlantique. Les autorités réagissent rapidement, des avions de l'armée de l'air brésilienne survolent la zone présumée du crash, tandis que l'hypothèse de l'accident est immédiatement envisagée. À l'aéroport de Roissy, l'ambiance est bien différente. Des familles rongées par l'inquiétude, elles ne savent encore rien du sort de leurs proches. Ces femmes et ces hommes sont conduits vers un lieu isolé, à l'abri des caméras des journalistes. Un prêtre a même été appelé. Nicolas Sarkozy, le président de la République de l'époque, affirme que les perspectives de retrouver des survivants sont très faibles.
Avec Jean-Louis Borloo, Bernard Kouchner et Dominique Puisseau, nous venons de rencontrer longuement les familles, qui sont extrêmement dignes et courageuses. Chacun peut bien imaginer ce que peut penser une mère qui a perdu sa fille, une fiancée qui a perdu son futur mari. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des survivants sont très faibles. À la minute où je vous parle, nous avons envoyé des bateaux et sur la zone, des avions. Nos amis espagnols nous aident, les Brésiliens nous aident beaucoup aussi. Nous avons demandé l'aide, y compris des Américains, par le biais des satellites. D'abord pour localiser l'endroit où s'est produit la catastrophe. Ce sera extrêmement difficile car la zone est immense, des centaines de kilomètres. Et naturellement, ce drame s'est produit en pleine nuit au-dessus de l'Atlantique.
Et ce qui devient de plus en plus intéressant à aborder, ce sont les circonstances de l'accident. Au cours d'un violent orage, les pilotes dévient la trajectoire de l'avion, mais cette manœuvre s'avère peut-être insuffisante. Les sondes pitot, essentielles pour mesurer la vitesse, auraient été prises par le givre, déclenchant alors une série de dysfonctionnements. Face à la gravité de la situation, les chances de retrouver des survivants apparaissent d'emblée très faibles. Devant la complexité de l'accident et l'absence de survivants, l'enquête s'oriente rapidement vers la récupération des enregistreurs de vol, communément appelés « boîtes noires ». Malgré les moyens déployés, cette étape s'avère particulièrement difficile en raison de la profondeur de l'océan et de l'étendue de la zone de recherche. La détermination des enquêteurs, soutenue par des avancées technologiques et l'appui international, permet finalement de localiser les boîtes noires au bout de près d'un an d'efforts. Grâce à leur analyse, les premières réponses émergent concernant les causes de la tragédie et la succession d'événements ayant mené au drame, amorçant ainsi une nouvelle phase de l'enquête et ouvrant la voie aux révélations cruciales sur les circonstances exactes du crash. Les révélations des boîtes noires. Le déroulement du drame, seconde par seconde, n'est réellement connu que 2 ans plus tard après l'identification de l'épave et le repêchage des enregistreurs de vol, les fameuses boîtes noires, dont les données sont restées lisibles malgré ce long séjour par 3900 mètres de fond. Les boîtes noires livrent alors leurs secrets, de fortes turbulences ont bien fait givrer les sondes, ce qui a créé des défaillances en cascade. À la lumière de ces éléments, les rapports du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, mettent en avant plusieurs facteurs convergents qui expliquent la tragédie. Au-delà des défaillances techniques, l'attention se porte aussi sur la gestion de crise par l'équipage, la clarté des procédures et la formation des pilotes face à des situations extrêmes. Les pilotes n'arrivent pas à reprendre le contrôle de l'avion, la chute dure moins de 4 minutes, tous les passagers sont morts sur le coup, il n'y a aucun survivant. Au fil de l'enquête, il apparaît également que la coordination entre les membres de l'équipage a été perturbée par le stress intense et la confusion générée par la situation d'urgence. Les procédures habituelles n'ont pas toujours été suivies à la lettre, ce qui a contribué à l'aggravation de la crise à bord. Par ailleurs, certaines alertes du système de pilotage automatique se sont révélées déroutantes pour les pilotes, complexifiant davantage la gestion de l'incident. Plusieurs rapports du BEA pointent divers problèmes, autant de pistes d'explication, responsabilité des pilotes, système dysfonctionnel ou encore formation insuffisante. Ce faisceau d'indices questionne la robustesse des systèmes automatisés autant que la capacité d'adaptation humaine en vol. La procédure. Un peu plus de 10 ans après le crash du vol Rio-Paris, le parquet de Paris demande un procès devant le tribunal correctionnel contre Air France et un non-lieu pour Airbus. La procédure repose sur plusieurs rapports d'expertise. D'abord celui du bureau d'enquête et d'analyse de la Direction générale de l'aviation civile, puis ceux des deux collèges d'experts nommés par les magistrats. Si l'un d'entre eux met plus particulièrement en cause des fautes de pilotage, tous s'accordent sur un constat. Le givrage des trois sondes Pitot est à l'origine de la perte de contrôle de l'appareil, qui volait alors à 11 000 mètres d'altitude dans un environnement orageux. Obstruées par des cristaux de glace, ces sondes fabriquées par l'industriel français Thales ont transmis au cockpit des indications de vitesse et d'altitude erronées. Le pilotage automatique s'est alors déconnecté, déclenchant de multiples alarmes sonores et des messages visuels qui ont convaincu le copilote de tirer sur le manche et de cabrer l'appareil. Mais en s'élevant encore davantage, l'avion a perdu de l'importance et a fini par décrocher sans que l'équipage s'en aperçoive. 3 minutes après, tout était terminé. Le parquet considère que la compagnie aérienne a commis une négligence et une imprudence en ne délivrant pas à ses pilotes suffisamment d'informations sur la procédure à adopter en cas d'anomalie liée aux sondes qui permettent de contrôler la vitesse de l'appareil après plusieurs incidents du même genre au cours des mois précédents. A l'inverse, il estime qu'il n'existe pas de charge suffisante pour envoyer l'avionneur en correctionnel. Il appartient désormais au juge d'instruction de décider s'ils suivent ces réquisitions et décide donc d'ordonner un procès pour la seule compagnie aérienne. La bataille d'experts qui suivit fut interminable. Les premières expertises avaient pointé à la fois des défaillances de l'équipage, des problèmes techniques et un déficit d'information des pilotes en cas de givrage des sondes, malgré une recrudescence d'incidents antérieurs signalés à Airbus. À la demande d'Airbus, une contre-expertise mit l'accent sur une réaction inappropriée de l'équipage et les manquements d'Air France. Cela provoque la colère des parties civiles et d'Air France. Ils obtiennent devant la cour d'appel son annulation et la réouverture de l'enquête. Il faudra 4 années d'enquête, d'expertise, de procédure pour aboutir à ce que souhaitaient les parties civiles, le renvoi d'Air France et d'Airbus devant le tribunal correctionnel. Le procès. Le 17 avril 2023, les juges de la 31e chambre correctionnelle du tribunal de Paris prononcent la relaxe de la compagnie aérienne et du constructeur. La justice a reconnu que les deux entreprises avaient commis des fautes, mais elle estima qu'aucun lien de causalité évident avec l'accident n'a pu être démontré. Seule la responsabilité civile fut reconnue. Mais la relaxe fut très difficile à comprendre et à accepter pour les familles des victimes. Alors que le ministère public avait requis la relaxe des deux entreprises, le parquet général a tout de même fait appel du jugement afin, je cite, de donner leur plein effet aux voies de recours prévues par la loi et soumettre l'affaire à un second degré de juridiction. Sur les 489 parties civiles constituées lors du procès de première instance, 281 se sont jointes à l'appel dans ce dossier. L'audience de la cour d'appel a commencé le 29 septembre dernier. Michel Polaco, expert en aviation, revient pour nous sur les circonstances du drame.
Alors le 1er juin, cet avion a décollé de Rio de Janeiro, chargé, 228 personnes à bord, dont 12 membres d'équipage, et puis tout le carburant pour pouvoir faire 10 000 km pour rejoindre Paris d'une seule traite et sans escale. Lorsqu'au bout de 3 heures de vol, ils arrivent en gros à l'équateur, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le front intertropical de convergence, qui est une zone orageuse connue, présente en permanence quasiment, et qui terrorisait en son temps les pilotes de l'aéropostale qu'ils appelaient le poteau noir, bien quand ils arrivent à cette zone-là, je trouve que c'est le moment que le commandant de bord a choisi pour aller se reposer parce qu'il est fatigué, il n'a pas beaucoup dormi au Brésil. Il confie l'avion au plus jeune des deux copilotes, qui était à ce moment-là le pilote en fonction, et laisse donc le pilote non en fonction, le pilote managérien, en place gauche, la place serait généralement réservée au commandant de bord, et il s'en va. À ce moment-là, l'avion arrive dans une zone orageuse, donc, et contrairement aux autres avions, avant, après lui, au lieu de se dérouter légèrement pour pouvoir éviter la zone la plus violente qu'il aperçoit sur son radar, normalement en tout cas, s'il est bien réglé, eh bien, ils attendent, et puis finalement, au dernier moment, 2 minutes avant d'arriver dans cette zone de convergence, ils font un petit écart de 10-12 degrés à gauche, ce qui est évidemment très faible, et donc pendant peu de temps, puisque ils s'y sont pris très tard. Et à ce moment-là, les sondes qui permettent de connaître la vitesse dans la masse d'air de l'avion, les 3 sondes, celle du commandant de bord, celle du copilote et celle du système de secours, les 3 sondes vont givrer. Elles givrent, c'est-à-dire que du coup, comme de la glace obture les orifices, les informations de vitesse qui arrivent à l'avion ne sont plus exactes, elles sont différentes. Et donc, il y a une alarme disant que les sondes ont des informations différentes, on appelle ça bisaiguille, et à ce moment-là, comme elles ont des informations différentes sur ce modèle d'avion, le pilote automatique se déconnecte parce qu'il ne sait pas choisir quelle est la bonne sonde qui donne la bonne information de vitesse. Jusque-là, tout cela n'est pas très grave, puisque s'ils avaient touché à rien et s'ils avaient attendu, l'information de vitesse a disparu pendant 29 secondes à gauche, pendant 41 secondes à droite et pendant environ 1 minute sur l'instrument de secours. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, pour des raisons qu'on ignore, alors que l'avion est déjà pas loin de son plafond, la hauteur la plus élevée à laquelle il peut voler en fonction de son poids, de sa puissance et de ses performances, l'avion est à 35 pieds et le copilote se met à cabrer l'avion, ce qui, évidemment, une altitude pareille ne peut que diminuer fortement la vitesse, jusqu'au moment où, puisqu'il insiste, l'avion va décrocher, et en gros, c'est ce qu'ils vont faire l'un et l'autre pendant les 4 minutes que va durer le drame, puisque ce drame se déroule en 4 minutes, c'est-à-dire qu'entre le moment où les sondes ont givré et le moment où l'avion s'est écrasé 11 000 mètres plus bas dans l'océan Atlantique, il s'est écoulé 4 minutes. Il est vrai que si personne n'avait touché à rien, il n'y aurait pas eu de catastrophe. On peut même dire que si les pilotes avaient été à l'arrière en train de boire un coup avec le personnel de bord, ça aurait rendu service à tout le monde. Malheureusement, il a fallu que ce copilote, qui ne comprenait pas la situation et qui a dit « j'ai les commandes » et qui s'est cru obligé de cabrer l'avion, ce qui à cette altitude-là ne peut être qu'une erreur et même une faute, a en fait provoqué le décrochage de l'avion, qui a duré puisqu'ils n'ont pas changé de stratégie et jusqu'au moment où l'avion a été irrémédiablement perdu.
Ainsi, l'affaire du vol AF-447 a initié une réflexion de fond sur les protocoles de sécurité aérienne, soulignant la nécessité d'améliorer à la fois les équipements, les méthodes de formation et la communication entre les membres d'équipage pour prévenir de nouveaux drames. Retrouvez-moi très bientôt pour un prochain numéro. C'était Zone d'ombre sur Radio Orient. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes de podcast.
C'était Zone d'ombre avec Wallis Glaise.